franceinter.fr.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie ?
L'écologie.
Et dans l'écologie, la diététique ?
C'est passionnant, ça.
Vous connaissez la doctoresse Kousmine ?
Non.
C'est un génie.
Et la macrobiotique ?
Ça, oui, un peu. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là ?
Ils disent qu'on mange de la merde.
CO2, mon amour. Denis Chessou.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui très modestement essaie. Une émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite avec Sandrine Laurent et Guillaume Roux à la technique aujourd'hui, et assistée de Séverine Bouvard. Et bien c'est Christophe Imbert qui réalise l'émission. Émission qui débute par une petite humeur. Allez, dans un monde aussi englué dans ses humeurs belliqueuses qu'une mouche dans une toile d'araignée, eh bien il semble évident que le missile sol-air est davantage le vent en poupe que l'énergie sol-air. C'est du moins ce qu'un récent article du Dauphiné Libéré laisse augurer, puisque le quotidien alpin nous révèle en effet qu'il ne fait pas bon couvrir son habitation de panneaux photovoltaïques dans le but de revendre l'énergie produite à EDF. Surtout lorsque l'on est chômeur, enfin pardonnez-moi, on dit maintenant désormais travailleur en recherche d'emploi, ce qui change tout. Donc un Dauphinois n'ayant pas la chance d'appartenir au gratin de la société a eu la mauvaise idée d'équiper le toit de sa maison de ses panneaux. Le malheureux donc est apparemment tombé dedans parce que les services fiscaux estiment qu'il a ainsi créé une activité à travers le crédit d'impôt. Rumeur bientôt prise pour argent comptant par le Pôle emploi qui y voit l'exercice d'une activité professionnelle, par conséquent incompatible avec le versement de l'allocation solidarité, donc une manne de 477 € mensuels. C'est donc tout logiquement que cette source d'abondance est immédiatement tarie. On passera évidemment sur le fait que l'intéressé n'a toujours rien reçu de la part de notre électricien hexagonal, puisque les versements dus par EDF aux particuliers étant, comme chacun sait, réglés à une vitesse assez éloignée de celle de la lumière. Aussi, vous qui possédez un caractère, on va dire, un peu lunaire et qui souhaitait produire autant d'énergie que vous en consommez, eh bien, méditez ce conseil. Hein. La fibre écologique n'est pas donnée à tout le monde et même dans certains cas, elle peut devenir franchement onéreuse. Et pendant ce temps, dans l'hémisphère sud, le principe cher à Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, connaît une application pratique. C'est à Setúrea, une ville du Paraguay, qui se trouve donc pas très loin d'Asunción, que la notion de recyclage prend une étonnante dimension. Le quotidien de cette ville bâtie sur une immense décharge et peuplée de 2500 familles aurait pu simplement préfigurer de ce que sera l'avenir d'une grande partie de l'humanité. Eh bien, pas du tout. Car les habitants du lieu ont entrepris de récupérer ce qui pouvait l'être des bennes qui viennent en continu déverser leurs 1500 tonnes journalières d'ordures. Ils en font quoi de cette pestilence ? Eh bien, de la musique. Oui, parfaitement de la musique. Ici, un bidon de ferraille ayant contenu des produits chimiques s'improvise en caisse de résonance pour un futur violoncelle. Là, une plaque de tôle cabossée deviendra la table d'harmonie d'un violon à naître. Ailleurs encore, de vieilles cuillères assemblées avec un tube métallique seront la flûte traversée de demain. Mais alors, non content de créer des instruments pour le moins baroques, aux sonorités incroyablement pures, les habitants de Setúrea, donc, décidément ne reculent devant aucune utopie et ont fondé un orchestre. De chambre pour le moment, mais dans le but est de créer un orchestre symphonique un peu plus tard. Et reconnaissons qu'un petit air de Bach s'envolant au-dessus d'un tas de déchets, ça suscite au moins autant d'émotion et d'espoir qu'une aubade interprétée sous les fenêtres d'une marquise dans un jardin à la française. Et comme on le dit, à chacun sa chaconne. J'ai un ami qui s'appelle Albert Hook dans le Maine-et-Loire et qui m'a dit, voilà, c'est lui qui avait trouvé à chacun sa chaconne. Il y a sûrement trois musicologues qui écoutent derrière. Et bien, ça leur fera plaisir. D'autant que Bach a écrit aussi des pièces instrumentales avec chaconne pour clavier, me semble-t-il. Alors, au menu de cette émission, je ne vais pas vous faire mon Frédéric Lodéon, au menu de cette émission, donc dans quelques instants, un homme que vous connaissez. Je vous en ai dans le département du Lot. Rencontré une jeune éleveuse de 33 ans, qui c'est très intéressant, son travail, donc Justine Beck. Il y aura l'actualité de l'environnement, mais nous allons débuter tout de suite. Par qui ? Il est là. Oui, bonjour Jean-Marie.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Nous allons mettre les pieds dans les vignes aujourd'hui, donc le sujet éminemment important, tout à fait français. 4% de la surface agricole aujourd'hui est donc en France recouverte par les vignes. Et on s'intéresse au fonctionnement naturel de la vigne. Donc comment elle peut se protéger aussi, cette vigne? Et là, il y a une panoplie incroyable de, je veux dire, de produits, non, de plantes, de végétaux qui peuvent l'aider.
Oui, absolument. Et ce sont des stratégies souvent qu'on met en œuvre dans les vignes bio, parce qu'il y a de plus en plus de vignes bio en France. Mmh. Les chiffres sont tout à fait intéressants. La superficie des vignes bio a augmenté de 25% entre 2007 et 2008. C'est quand même considérable.
Alors c'est vrai que les chiffres de pourcentage, ça va très vite, ça va être très, très important, parce que lorsqu'on part de 0,5, on arrive à 1%, on est tout de suite à 50%. Donc,
Bravo pour cette notule.
Oui.
En Alsace, il y a 203 viticulteurs qui couvrent 10% de la superficie du vignoble. Donc ce sont des chiffres intéressants. Alors, pour la vigne, on utilise toute une série de stratégies qui sont celles qu'on a vues d'ailleurs. Le purin d'ortie, le purin de prêle permet de diminuer les quantités de cuivre utilisées. Il y a mycorhisation, c'est-à-dire la stimulation des symbioses racinaires avec des champignons qui vont nourrir la vigne, en phosphate en particulier. Alors, il y a des produits comme l'aliette, par exemple, qui est un produit spécifique qui favorise cette mycorhisation, la stimulation des défenses naturelles. Alors, l'INRA de Dijon travaille beaucoup pour donner à la vigne des substances qui vont l'aider à se défendre contre les attaques des pathogènes, qui sont souvent d'ailleurs des champignons. Le mildiou, c'est un champignon. L'esca dont on va parler, c'est un champignon aussi. L'oïdium, c'est un champignon. Donc il faut que la vigne puisse se défendre et on va lui donner des substances qui lui permettent de se défendre. J'étais à un colloque à Bordeaux et on a entendu des chercheuses, c'est ce qu'on dit maintenant, des chercheuses du canton de Vaud, donc en Suisse, qui arrosaient la vigne avec des tisanes de rhubarbe et avec des tisanes de bourdaine et avec des tisanes d'aloès. Et ces extraits contiennent des substances qui sont antifongiques. Quand je travaillais en Afrique, j'avais remarqué que pour se débarrasser des champignons qu'on attrape facilement sous les climats chauds et humides, on prend une plante qui s'appelle le cassia alata, et on frotte avec les feuilles, et les champignons s'en vont.
Donc c'est un excellent fongicide.
C'est un très bon fongicide. Eh bien, ce fongicide, c'est le même que celui qu'il y a dans la rhubarbe, dans la bourdaine et dans l'aloès. Donc on a ici des substances qui agissent de manière différente. D'une part comme toxiques pour le champignon, et d'autre part comme stimulant l'apparition de molécules de défense dans la vigne. Il y a donc deux types d'actions en même temps. Et puis alors il y a mon ami Joël Cernamer. Alors Joël Cernamer, c'est un génie. Il n'est pas ingénieur, mais c'est un génie, voilà. Parce qu'il connaît la physique quantique et la biologie moléculaire en même temps. Il n'y en a pas beaucoup, c'est très rare. Il étudie les vibrations de la matière, les vibrations, par exemple, des acides aminés. Et ces vibrations, il va réussir à déterminer leur fréquence. Quand des acides aminés se mettent bout à bout pour fabriquer une protéine, il y a une série de fréquences, et ça s'exprime par de la musique. Et cette musique va donc stimuler la formation de protéines qui auront dans la plante des activités qu'on veut favoriser. Par exemple, des activités qui vont favoriser la croissance ou qui vont défavoriser les parasites. Donc, il fait écouter à la plante de la musique, 3 minutes par jour. La plante, c'est la vigne. On installe les petits haut-parleurs dans la vigne. Puis le matin, il y a une petite musique qu'il a composée, mais pas n'importe laquelle, celle qu'il a composée en fonction des vibrations qu'il a réussi à déterminer par le calcul mathématique correspondant à telle molécule. Eh bien, ça marche. Alors, c'est très étonnant parce qu'il travaille sur l'ESCA, qui est une maladie cryptogamique qui s'est beaucoup développée un peu partout depuis qu'on n'utilise plus l'arsénite de sodium qui a été repéré comme étant cancérogène et qui a donc été éliminé promptement, pour le coup, promptement démarché. Alors il fait entendre à ses vignes sa musique et la maladie régresse. Alors il y a deux styles de maladie, il y a une maladie douce et une maladie dure. La version dure, elle s'appelle apoplectique. Alors là, la vigne a des apoplexies. Donc, il étudie le nombre de cèpes qui sont protégés par rapport à une vigne témoin. Il compare la vigne témoin où il n'y a pas de musique à la vigne quand on a la musique. Et alors, écoutez, c'est surprenant. Il a des résultats surprenants, de sorte qu'en Alsace, les vignerons commencent à lui courir après pour lui demander de mettre les petits appareils à musique un peu partout. Il l'a fait aussi en Val-de-Loire. Alors,
juste le petit bémol, Jean-Marie, c'est le cas de le dire, le bémol, c'est que déjà, on a de la musique partout, c'est-à-dire dans les ascenseurs, dans les restaurants, dans le métro, partout dans les toilettes, c'est insupportable. Vous n'allez pas nous balancer, en plus de la musique, dans les vignes, vous voyez ?
Trois minutes.
Oui, à trois minutes seulement.
Trois minutes seulement, oui, par jour. Par jour. C'est pas beaucoup. Oui. Et d'habitude, c'est le matin. Mmh. Donc, c'est une musique qui vous réveille en douceur.
On pourrait pas mettre, si vous voulez, donc un écouteur, ce fameux Y, sur les oreilles des vignes.
Ça ne manquera pas de se faire, car il ne faut jamais désespérer du progrès. Jamais. Alors, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est que Pedro Fernandez, qui travaille là-dessus et qui est le collaborateur de Joël, m'envoie les résultats au fur et à mesure. Et la dernière fois qu'il m'a envoyé des résultats, il m'a dit « ça y est, c'est statistiquement avéré ». Donc les résultats sont sûrs, sont scientifiquement sûrs. Donc ce n'est pas une histoire que le Pelt raconte comme ça parce qu'il dit n'importe quoi.
Parce qu'il y a des gens qui sont en train, qui vous écoutent, ils se le disent.
Mais c'est pour ça, il dit ça y est, il est parti en train de raconter. Ce n'est pas n'importe quoi. Les résultats sont avérés statistiquement. Il y a un effet positif contre cette maladie qu'est l'ESCA. Et d'ailleurs, il y a aussi accessoirement un effet sur le milieu et sur l'oïdium, qui est tout à fait curieux et intéressant. Alors, à partir de là, à partir de la méthode qu'a inventée Joël, on peut l'appliquer à tous les domaines, puisque les protéines interviennent dans toutes les activités d'une plante ou d'un animal. Donc, si on stimule la protéine intéressante pour obtenir tel résultat, on va peut-être obtenir tel résultat. Raison pour laquelle Joël, qui a épousé une toute charmante japonaise, expérimente ses méthodes dans un hôpital de Tokyo, parce qu'il était inconcevable qu'il puisse l'expérimenter dans un hôpital de Paris. Nous ne sommes pas des Japonais. Voilà. Et c'est pas beau comme histoire, ça. Belle histoire.
Merci beaucoup, Jean-Marie. Et puis, on se retrouve très, très vite. Cette histoire dont vous la racontez dans cet ouvrage « Cessons de tuer la terre pour nourrir les hommes ». Au revoir, Jean-Marie.
Au revoir, Denis. Au revoir à tous.
Et sur la route de vos vacances, j'espère que tout se passe bien dans un sens ou dans un autre. Je vous emmène dans le Lot. Oui, ce ne sera pas la montagne. Ce sera notre reportage de deuxième partie. Outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. Bathing the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden. Oh, wow, oh, wow. Oh, wow, oh, wow. And I'll fly on the wings of a butterfly. High as a treetop, down again. Putting my bag down, taking my shoes off, walking the carpet, a green velvet. c'était Green Garden sur France Inter, choisi par Jean-Baptiste Audibert, notre programmateur, interprété par Laura Mvula. J'espère que vous allez bien. Faites attention à la voiture de devant. Voici la deuxième partie et je vous emmène dans le département du Lot. On va vers la ferme. Voilà, dites-moi Justine Beck, là, je vois sur le toit de la grange une très belle girouette, très symbolique d'ailleurs.
C'est... Oui, tout à fait, c'est Don Quichotte.
Ah oui.
C'est parce qu'on a commencé, c'était pas facile et c'était un beau challenge. Et du coup, quand on l'a trouvé, on s'est dit que ça irait très bien sur la grange.
Voilà. Alors là, on arrive évidemment sur un ancien corps de ferme, mais que vous avez quand même retapé pour...
Ça, c'est le potager, ils sont en train de l'entretenir.
Ah, c'est ça. Ah, mais attendez, c'est très bien. Ils font le boulot à votre place. Non,
exactement, oui.
Donc, c'est des tondeuses, quoi.
Oui, tout à fait. Ce sont nos béliers. Et donc, ils sont très bien à part du troupeau pour le moment, puisqu'il n'y a pas la lutte en ce moment.
Vous êtes un jeune couple d'agriculteurs. Vous avez quel âge, Justine?
J'ai 33 ans. Et je me suis installée en 2009, suite au décès de ma belle-mère. Mais je n'étais pas du tout prédestinée à ce job, puisque au départ, j'avais repris mes études pour être instite. Puis finalement, je me suis plu à reprendre l'exploitation et en faisant des petites variations. Par exemple, je fais de la vente directe et avec mon époux, nous faisons du vin.
Bon, la région s'y prête quand même.
Oui, sauf que nous, on n'est pas en AOC.
Non, vous n'êtes pas en AOC qu'à Orbe, enfin, vous êtes à côté.
Oui.
Voilà.
C'est un challenge qu'on s'est fait et donc, ma foi, pour l'instant, ça nous plaît bien.
Ah, ben voilà.
Donc voilà, on va rentrer.
Voilà le troupeau. Hop. Ça, alors, au cœur de cet hiver viral et dépressif, eh bien, vous avez, comme tout le monde, besoin d'air sain et de lumière. Je vous emmène non pas à la montagne, parce que soit vous y allez, soit vous y revenez, mais je vous prends par la main, direction le Lot. Le Lot qui, avec le Célé, baigne ce département qui est fait de vallées limoneuses, de vignes et de causses. Alors, on connaît dans ce massif central, au sud, le Quercy Blanc, le Causse de Gramat au nord-est, le Lot, si vous voulez, c'est un peu le département, allez, on va les citer, vous avez Champollion, Gambetta, André Breton, François Sagan, qui a beaucoup aimé aussi ce lieu. C'est un pays de ciel étoilé, de calme. Alors, vous n'avez pas des horizons, on va dire, qui sont exceptionnels, mais vous avez une harmonie à chaque pas qui ne faillit pas. C'est-à-dire que le paysage ici ne supplante pas l'imagination humaine, mais il fait vraiment corps avec lui. Moi, je vais vous emmener dans une partie du Lot qui est peut-être moins connue, qui s'appelle la Bouriane, au nord-est de Cahors. Et là-haut, l'herbe y est plus verte qu'ailleurs, donc on peut y laisser les bêtes plus longtemps. Et dans ce parc naturel régional des Causses du Quercy, qui fait quand même un sacré boulot, bien une jeune femme de 33 ans, donc on l'a bien compris, Justine Beck, hein, qui a failli être institutrice et qui a quitté l'éducation nationale pour élever non plus des enfants, sauf les siens, mais des bêtes nourries à l'herbe, des cossenardes, hein, des brebis aux yeux cerclés, d'un rond noir et puis avec des oreilles charbonneuses. Ben, on va rencontrer cette femme, donc, qui a une sensibilité écologique. Et c'est un peu, on va lui tirer le portrait de cette jeune éleveuse qui a pensé son métier. Et donc ce sera, comme chez Mermet, une très très modeste et géniale émission. Mais surtout, notre modeste et géniale salon de l'agriculture à nous, dans ce haut de mon amour, avec Justine Beck. C'était mercredi et il faisait doux, si.
Donc ça fait une vingtaine de jours que les agneaux naissent.
Oui.
Donc, ils ont commencé avec la neige, les pauvres, et donc on a fini dans la serre, ce qui est assez rare, mais c'était mieux pour elles.
Alors ici, quand même, dans le Lot, on est sur des terres pauvres, on est sur des causses principalement. On fait bien sûr un peu de céréales, mais ça se prête complètement, enfin cette bête se prête complètement à ce lieu.
Ah, mais tout à fait, et en plus, moi je suis en pâturage extérieur quasiment toute l'année. Ce qui fait qu'au niveau de l'entretien des parcours, on a opté pour une nouvelle méthode qui est le technopâturage. C'est-à-dire qu'au niveau de l'entretien, moi je redécouvre des parcours que je ne connaissais pas parce que l'embroussaillement était tel que je n'y allais pas forcément. Et cette nouvelle technique de pâturage me permet de redécouvrir toutes les parcelles que je ne connaissais pas au départ.
Et qui étaient fermées.
Exactement, oui. Ouais. Et le Lot, en plus, avec le Conseil Général, le Parc et la Région, permettent à des propriétaires d'entretenir leur territoire que certains ne connaissent même pas. Et avec quelques aides, les éleveurs, comme moi par exemple, les propriétaires ont créé des AFP, des associations foncières pastorales, pour que les éleveurs, avec leurs bêtes, puissent entretenir de manière durable et écologique toutes ces terres qu'on avait complètement laissées à l'abandon.
Alors là, c'est de l'élevage, hein. C'est pas les grandes cultures céréalières, vous êtes vraiment très loin de ces problématiques.
Oui. Surtout que nous, c'est un tout petit troupeau. Hein. Enfin, par exemple, moi, j'ai 250 brebis, donc c'est vrai que la plupart des éleveurs d'ici, ça reste quand même très humain, très, très petit comme exploitation. Ouais. Hein. Il y a de nombreuses exploitations qui sont en train de fermer parce qu'elles n'arrivent pas à en vivre. Les agriculteurs n'ont quand même pas un haut niveau de vie. Ce qui fait que des exploitations s'agrandissent de plus en plus au détriment de petites qui devraient vivre naturellement sans aide. Et moi, je suis outrée par ce genre de choses, quoi.
Oui, c'est un peu un système qui marche un peu sur la tête, c'est ce que vous dites.
Oui, oui, tout à fait. On marche complètement à l'envers. Il faudrait que les exploitations soient plus petites, qu'on s'en sorte mieux avec ce qu'on a, qu'on fasse de la vente directe. Et chacun trouverait sa place facilement et on vivrait tous bien mieux, ça c'est sûr.
Qu'est-ce qui vous plaît profondément? Parce que, comme on le disait, vous n'étiez pas du tout destiné donc, à faire ce métier. Et il faut vraiment mettre en avant quoi, les jeunes éleveurs, les jeunes agriculteurs qui reprennent des exploitations. Parce que c'est un peu ça aussi, quand on voit le nombre d'exploitations qui dégagent. Voilà. Oui. Et vous, c'est l'inverse. Quoi.
Oui, oui, tout à fait. Mais peut-être que, justement, de ne pas avoir été dans ce milieu agricole dès le départ m'a permis d'avoir une autre optique de l'agriculture. Et de faire un élevage peut-être un peu différent, très extensif, et ne pas être pollué, entre guillemets, par des idées d'avant, en fait. Ouais. Tout n'est pas à jeter hein, dans ce qu'il y avait avant, mais ça me permet peut-être d'avoir ma propre expérience.
Et de ne pas avoir des préjugés. Quoi.
Voilà, exactement, oui. Ouais. Donc,
vous n'avez pas été formaté non plus par un lycée agricole ou non?
Pas du tout non plus. Non, j'ai commencé vraiment comme ça, mais c'était pas facile hein, parce que le métier, si c'était facile, ça se saurait. J'en ai un petit peu bavé au départ quand même. Mais bon, au fur et à mesure, j'ai un mari qui m'épaule énormément. Bon, lui est issu de ce milieu agricole, oui, mais a des idées plutôt larges. Il est parti en Australie pendant un an. Il a été dans des fermes à Rodez, un peu partout. Et c'est vrai qu'il m'aide énormément dans la mise en forme de cette ferme. Quoi.
Et puis, il a la tâche lotoise. Donc ça, c'est aussi important quand même pour s'intégrer ici.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que les Lotois ont tendance un petit peu à rester entre eux. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas m'écouter.
Non, mais à mon avis, ce n'est pas lié qu'ici. Quoi.
C'est vrai.
Voilà, vous avez vos gamins là, qui, eux, c'est très bien, ils ont été élevés. Pour ça, j'imagine que vous n'allez pas voir l'otorino, parce que les allergies à cause de la qualité de l'air qui n'est pas bonne, c'est pas le coin.
On n'a pas ça à la maison. Non, ils se portent très bien, et c'est vrai qu'ils ont cette chance-là. Je ne sais pas s'ils s'en rendent compte maintenant, peut-être plus tard. Mais en tout cas, je pense qu'ils ont une bonne hygiène de vie, une qualité de vie. Ouais.
Alors là, c'est drôle parce qu'ils sont en train de jouer avec leur tracteur miniature, hein, c'est ça.
Ils m'aident.
Et voilà. Alors vous avez quand même aussi une approche assez écologique des choses.
Hein. Bon, j'essaye. Ouais. Je ne suis certainement pas parfaite, mais j'essaye de faire les choses mon âme et conscience. Ouais. Nous, on ne fait pas trop de céréales, on ne met pas trop d'engrais, ou alors c'est juste le fumier qui est dans les serres. Pour la vigne, c'est pareil, le vin est en bio. Enfin, on essaye de faire les choses à peu près bien. Après, on verra, ne serait-ce que pour nos enfants, et puis même pour tout le monde et pour nous-mêmes, parce que les produits, on est les premiers à les avoir. On pense toujours à tout le monde, mais nous, c'est pareil. Hein. Nous, on est les premiers à être malades de tout ça. Hein, donc,
vous êtes les premiers servis. Quoi.
Ah oui, tout à fait, ouais.
Et alors votre époux, il n'est pas là? Vous l'avez envoyé en Australie ou...
Non, je l'ai envoyé en formation auprès d'un chercheur de l'INRA pour savoir quelles sont les meilleures techniques de débroussaillage avec les brebis, en fait. C'est-à-dire qu'on a encore peu d'expérience auprès des AFP et puis même nous, les éleveurs. Et on cherche à trouver la meilleure solution pour faire pâturer au mieux les espaces qui sont très embroussaillés. On avait tendance peut-être à girobroyer un peu trop. Et cette personne nous explique qu'en fait, il vaut mieux ne pas débroussailler puisqu'en fait, ça va être pire si on au printemps, si on ne fait pas passer les bêtes comme il faut.
Alors, parlez-nous justement de ces associations foncières pastorales. Il n'y en a pas encore forcément beaucoup en France. Et qu'est-ce que c'est exactement ?
Les premières AFP ont été faites dans le Lot, grâce à des propriétaires sur notamment l'Uzèche et la Bastide du Vert. Ouais. En fait, il y a eu un incendie il y a de ça une dizaine d'années. Et ces propriétaires ont eu, je pense, très peur. Ils se sont rendus compte par eux-mêmes que l'état de leur territoire était très, très embroussaillé. Avec quelques éleveurs, ils étaient certainement des amis, ils se sont rencontrés et ont créé ces associations foncières pastorales, c'est-à-dire que des propriétaires se sont rassemblés et ont donné, entre guillemets, leurs terres à des éleveurs pour que ces éleveurs, lors de transhumance, viennent mettre leurs brebis avec une pression assez forte du territoire.
Pour qu'ils puissent ouvrir le territoire. Quoi.
Voilà, c'est ça, réouvrir pour que les incendies ne prennent plus comme ça a été. Quoi.
Et alors, il se passe ici dans le Lot aussi une transhumance tout à fait régulièrement. C'est, je crois, la première même transhumance de France. Quoi.
Oui, tout à fait, surtout dans une région comme celle-ci qui ne s'y prête pas forcément, on peut penser au départ. C'est la transhumance en Quercy, donc, qui s'est créée justement pour amener ces bêtes sur ces AFP. Ouais. Et donc, c'est une petite poignée d'éleveurs dont cette idée a interpellé et a intéressé pour amener des bêtes sur ces AFP. Ouais. Donc, c'était un challenge humain et puis agricole, on va dire.
D'accord. T'aimes bien les caresser, les agneaux ?
Oui. Et elle, c'est une petite femelle et sur l'autre, c'est un petit mâle. Et on fait la transhumance avec que des brebis, mais sans agneaux, parce que les agneaux, sinon, il faut attraper par des renards. C'est lui que j'avais vu. Lui qu'on avait vu.
Regarde, maman, maintenant, elle tête. Ouais.
Je laisse faire.
C'est le
chouchou
des enfants, celui-là.
Oui, c'est ce que je vois, oui.
Petit, il veut lécher nos bottes. Il préfère lécher nos bottes.
En fait, il ne faut pas trop s'attacher quoi, à ces agneaux, parce que c'est très mignon. Hein.
Mais tout à fait, mais c'est surtout très bon quand c'est un peu plus grand, oui.
Eh oui, bien sûr.
L'agneau d'ici devient l'agneau, la belle rouge du Quercy.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a un cahier des charges principalement, donc c'est le bien-être de l'animal dans la bergerie. L'agneau doit être élevé sous la mer pendant 2 mois, au moins minimum, jusqu'au sevrage. Et ensuite, on complète avec du grain et du granulé. Et jusqu'à à peu près 5 mois. Et à 5 mois, la capelle ou autre organisme certificateur pour que la carcasse soit bien du label rouge.
Alors des circuits courts ?
Oui, exactement, oui. Donc j'ai la chance qu'une petite poignée d'éleveurs, encore une fois, heureusement qu'il y en a qui sont là et très motivés, ont créé une salle de découpe.
Ouais.
Donc la salle de découpe Les Fermes du Pays Bourrien à Saint-Germain-du-Bel-Air, et donc je suis devenue adhérente de cette coopérative et ils transforment la viande pour ensuite les mettre en colis et les vendre à des particuliers, et l'été je fais des marchés pour pareil les vendre en direct. Voilà.
Et la laine, qu'est-ce qu'on en fait ?
Alors la laine, elles sont tondues donc au mois d'avril à peu près, et les tondeurs la récupère pour faire de l'isolation.
D'accord. Voilà. On fait de la isolation en laine de mouton.
Exactement.
Ah,
oui.
Okay.
Ouais.
Okay. Alors on imagine bien que c'est pas forcément l'opulence, mais à la fois vous êtes, vous arrivez quand même à vivre.
Oui.
Parce que aussi vous travaillez en circuit court. Hein.
Oui, tout à fait. Je me suis mis dans l'idée de faire de la vente directe avec donc l'agneau et le vin.
Ouais.
Le vin, je le fais qu'en vente directe. L'agneau, j'essaye de le faire qu'en vente directe.
On écrase
les raisins.
Les raisins.
Ouais. Et tu fais ça, toi ?
Oui, parfois quand c'est les vendanges.
Ah oui, quand même. Donc on fait ça au pied encore chez vous ?
On l'a eu fait, ouais.
Ouais, c'est ça.
On a déjà fait, je sais pas combien de vendanges.
Quel âge as-tu ?
7 ans.
7 ans, oui. T'es autorisé à boire un tout petit peu de vin de maman et papa ou...
Tu me donnes un tout petit peu de vin.
C'est pour le goûter, ouais, c'est normal. Mais c'est bien.
Il faut pas le dire.
Mais non, non, mais c'est pas le. Bon, ce ne sont pas des enfants d'alcooliques.
Non, on essaie tout de leur faire connaître le bon goût.
Et bien
surtout.
Sûr,
voilà.
Bien sûr.
Ouais. C'est la petite goutte.
C'est la petite goutte, oui. Bon, il n'y a pas beaucoup de repos quand même, malgré tout. Hein.
C'est... Non, mais en même temps, moi, je travaillais dans des écoles avant, et c'est vrai que la ferme, je trouve ça sympa. Mais au niveau conversation, c'est quand même assez... Enfin, les brebis, c'est sympa, mais je n'ai pas de conversation avec personne, donc je suis contente de faire quelques marchés quand même l'été. Ouais. Ça me fait du bien, oui. Donc voilà, puis ça me permet aussi, au travers de Transhumance en Quercy, au travers de l'AFP de Nadillac, et au travers de la coopérative, de rencontrer d'autres éleveurs, puisque moi, je ne suis pas issue de ce milieu-là aussi, et d'échanger avec eux, et je trouve que c'est très riche et très intéressant.
D'ailleurs, ici, on ne voit pas de grosses mécanisations. Hein,
non, 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 tout à fait, ouais, mais je ne suis pas contre, mais je n'ai pas envie d'investir là-dedans, je n'ai pas envie d'investir dans des gros bâtiments, et donc c'est vrai que moi, mes bêtes sont dehors. Donc, toujours pareil, moins de charges, l'entretien du matériel, j'en ai pas, puisque j'en ai pratiquement pas. Après, j'ai un quad, si, c'est vrai, c'était plus gros investissement, mais je m'en sers tous les jours pour avoir les bêtes. Qu'il y ait de la pluie, du vent, de la glace, de la neige, je passe partout. Et ça, par contre, je ne m'en séparerai pas.
Outil d'éleveur par excellence, ça, c'est sûr. Et alors, que dire à un jeune qui a envie de s'installer aujourd'hui ?
Alors, un jeune qui a envie de s'installer, je lui conseillerais d'aller voir de nombreuses fermes qui fonctionnent bien différemment, pour qu'il puisse, par rapport à sa future surface qu'il va avoir pour son exploitation, puisse l'adapter dans les meilleures conditions. Voilà. Et de ne pas investir à outrance comme aujourd'hui, on veut nous le faire faire. L'investissement, par exemple, pour l'aide aux jeunes, je ne suis pas sûre que ça soit vraiment une bonne chose en fait, pour le jeune, puisqu'il est étranglé pendant un très long moment par rapport à ses investissements. Oui.
Portrait de cette jeune femme, donc Justine Beck, qui se trouve à Méchemont. Hein, vous regarderez sur la carte, donc dans ce pays de Bourriane, dans ce très beau département du Lot. Vous l'avez très bien compris, on est loin, 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 loin de ce grand n'importe quoi de non-traçabilité sur les produits transformés. Hein, lorsque l'on est éleveur, que ce soit de l'agneau, du cochon, du bœuf, parce que là, ils en ont tous pris un coup et c'est pas marrant du tout. Quoi. Donc, tout ce qui s'est passé. Là, il y a une traçabilité hein, du groin, de l'assiette, jusqu'à la fourchette. Bon, là-dessus, en France, quand même, ça fonctionne très très bien. Donc, Justine Beck qui se trouve à Méchemont. Un grand merci aussi donc au Parc Naturel Régional des Causses du Quercy. Et puis, il y a un homme qui n'était pas très loin. Il était plutôt dans le Quercy blanc, du côté de Montcuq et de la Taillade. C'est là qu'il a terminé sa vie.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges, j'ai de toiles d'araignée. Sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. L'automne, l'enfance, autour, il y avait le silence, les guêpes et les nids des oiseaux, on allait à la pêche aux écrevisses avec monsieur. Se baigner tout nu, tout noir, avec les petites filles et les canards. maison près des HLM a fait place à l'usine et au supermarché. Les arbres ont disparu, mais ça sent l'hydrogène sulfuré. L'essence, la guerre, la société. Ce n'est pas si mal. C'est normal, c'est le progrès.
Et dans quelques instants, troisième volet de ce magazine, l'actualité avec Nathalie Fontrelle. Oui, déjà là. Ça vous a donné, puisqu'elle est là, ça vous a donné des vocations d'éleveuse, chère Nathalie?
Non, mais moi j'aimerais élever des chevaux.
Oui, oui, et pas des agneaux pour les manger.
Ah non.
Ah oui, parce que vous, les chevaux, vous les mangez pas, je crois pas.
Ah, jamais je n'ai mangé de la viande de cheval.
C'est bien ce qui me semblait. Allez, c'est parti.
Les oiseaux dans la charmille.
Oui, voilà, c'est joli, mais là, l'actualité de l'environnement, mais il faut l'abattre.
Eh oui, on va faire comme si on ne s'était pas vu. Bonjour Nathalie Fontrelle.
Bonjour Denis.
Actualité donc, on va revenir, tenez, sur une information qui aurait dû faire plus de bruit que la viande de cheval. Combien coûterait un accident nucléaire en France?
Alors, nous en avons parlé sur France Inter dans le journal de 7h30 le 7 février dernier. Mais bizarrement, franchement, l'étude de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire n'a vraiment pas fait la une des journaux.
D'ailleurs, quand on regarde, elle est assez édifiante.
Que se passerait-il si la France vivait une catastrophe nucléaire de type Fukushima? Réponse avec Patrick Momal, économiste à l'IRSN.
Un accident de type Fukushima, d'après nos calculs, coûterait plus de 400 milliards d'euros à la France. Ça fait plus de 20% du PIB d'une année et donc plus de 10 années de croissance, voire 20. On essaye de prendre en compte tous les coûts. Ça, c'est très important à comprendre. Et c'est pour ça que les chiffres que l'on a maintenant sont beaucoup plus élevés que ceux qui ont été publiés avant. C'est qu'on prend tous les coûts en compte. Pas seulement les coûts où il y a de la radioactivité, mais aussi les coûts d'image, les coûts sur le système de production d'électricité. Mais on essaye de tout couvrir, c'est-à-dire les coûts radiologiques avec de la pollution radiologique, mais aussi le coût des territoires contaminés, mais aussi le coût d'image sur le tourisme et les coûts sur la production d'électricité qui devrait voir son prix augmenter. Alors, sur la production agricole, il y aurait deux types d'effets. L'effet radiologique, où vous avez des productions contaminées, du lait contaminé, des légumes contaminés, des productions de viande contaminées. Et donc là, vous pouvez en avoir qui sont fortement contaminées, qui vont être interdites de commercialisation et de consommation. Et vous pouvez en avoir d'autres en dessous qui sont autorisées. C'est-à-dire qu'on ne consomme pas des milliers de litres de lait qui nous mettraient en danger. Eh bien, on pense que dans ces productions qui sont peu contaminées, ou pas contaminés du tout, il y en a qui subiront un effet d'image. Les gens auront peur, ils ne seront pas sûrs qu'ils peuvent les consommer, et par conséquent, il y aura des pertes aussi là-dedans. Alors qu'il y a peu de becquerel ou pas de becquerel du tout.
Alors Nathalie, on entend les chiffres, c'est impressionnant ça.
Et il y aurait également 100 000 réfugiés radiologiques, l'équivalent de 4 départements contaminés. Les conséquences seraient bien supérieures à celles que doit aujourd'hui gérer le Japon, car finalement il a eu de la chance dans son malheur. La centrale de Fukushima, vous le savez, est située près de l'océan et les vents dominants ont poussé la radioactivité sur le Pacifique.
Alors qu'en France, on le sait, les vents dominants viennent de l'ouest.
Et pousseraient le nuage sur les terres et en fonction de la localisation de l'accident, d'autres pays d'Europe pourraient être touchés.
Alors, en fait, quel est l'objectif de l'IRSN?
Alors, la publication de cette étude n'a pas pour mission de faire peur. Écoutez les explications du directeur de l'IRSN, Jacques Repussard.
Non, pas du tout. Notre raisonnement est que l'économie a sa place dans la sûreté. La sûreté coûte de l'argent. Des investissements pour améliorer les centrales, voire en construire de plus sûres dans l'avenir, bien gérer les déchets nucléaires, ça engage des budgets. Et notre but, c'est de montrer que les arbitrages qui doivent être rendus sur ces investissements de sûreté, finalement, il faut les relativiser. Bien sûr, ce sont des sommes importantes, mais il faut les relativiser par rapport à ce que coûterait un accident. et de telle manière que ces investissements, finalement, on les rentabilise en quelque sorte dans un raisonnement économique en disant ben, si on évite encore plus un accident très grave, c'est un bon investissement pour la nation. Le but de l'IRSN n'est pas de faire peur. L'idée, c'est de faire en sorte que ces chiffres soient connus des décideurs, qu'on puisse en discuter, que l'on regarde l'impact sur ces chiffres d'amélioration de mesures de sûreté. Par exemple, on va demander à EDF de construire ce qu'on appelle des noyaux durs qui permettent justement d'éviter pratiquement systématiquement qu'un accident soit aussi grave que les pires qu'on peut imaginer. Eh bien, ces investissements-là, ils sont très coûteux. Mais si on les recadre par rapport à ce que serait le coût d'un accident, on voit que c'est un investissement raisonnable.
Parce qu'il arrive quand même, Nathalie, que le monde du nucléaire se fasse tirer les oreilles pour investir dans la sûreté. Je n'ose pas le croire. Quand même.
En tout cas, pour les opposants au nucléaire, l'étude a fait l'effet d'une bombe. Oui. Écoutez Jean-François Julliard, directeur de Greenpeace France.
Ça nous inquiète, bien sûr, parce qu'on a le sentiment que personne ne prend en compte ces recommandations-là, personne ne prend en compte ces avis-là. Ça devrait être vécu comme un électrochoc en France. Effectivement, l'IRSN a raison. Aujourd'hui, et c'est l'IRSN qui le dit, le coût d'un accident nucléaire reviendrait au coût d'une guerre régionale. C'est quand même dingue quand on y pense. On se dit qu'aujourd'hui, un accident nucléaire majeur en France aurait des conséquences économiques, sans parler des conséquences humaines, etc., aussi importantes qu'une guerre. Donc, et on a le sentiment, effectivement, que ça passe dans l'indifférence générale, que le gouvernement ne veut pas entendre l'avis de l'IRSN sur cette question-là. Parce que j'ai la conviction aujourd'hui que ce gouvernement n'est toujours pas convaincu de la nécessité de sortir du nucléaire. C'était Nicolas Sarkozy, avant assumer son côté pro-nucléaire, faisait la promotion de l'industrie nucléaire. Aujourd'hui, le gouvernement est dans un double discours, mais au final fait la même chose.
L'IRSN va maintenant préciser les choses, hein, Denis, et étudier site par site, centrale par centrale, l'impact que pourrait avoir un accident nucléaire type Fukushima.
Qui craint le grand méchant loup, c'était vous, n'est pas nous. Voyez comme d'ailleurs on tient le coup. Ah la 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 la.
Et oui, alors le gouvernement vient de présenter, Nathalie, le nouveau plan loup pour les années 2013-2017. Je suis un loup, qu'est-ce qui va arriver pour moi?
Alors l'objectif, c'est toujours d'établir la cohabitation entre le prédateur et les hommes. Bon, franchement, oui, rien de révolutionnaire dans ce plan, sinon que les bergers pourront tout de même se défendre plus facilement. Mmh. Et puis, la mise en place d'une expérimentation. On va capturer un loup, ou plusieurs loups d'ailleurs, hein, ouais, trop dévoreur de brebis, et puis le relâcher un peu plus loin ailleurs. Il paraît que ça le terrorise, oui, et que ça le dissuade d'attaquer les troupeaux. Et l'enjeu, en fait, c'est d'éduquer le loup.
Bien sûr, c'est ça qu'on lui fait la morale, et on lui dit « tu vas devenir un très gentil loup maintenant ». Donc, on l'a envoyé à l'école, le cher carnivore.
Eh oui, écoutez Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture.
Ce qui est en proposition, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on ait des méthodes qui soient à la fois passives de défense contre le loup, c'est toutes les méthodes qui ont déjà été mises en œuvre, et qu'il faut toujours améliorer. On a un certain nombre de propositions sur ce sujet, et en même temps avoir aussi des méthodes plus offensives pour faire en sorte qu'on finisse par éduquer le loup. Ça paraît un peu compliqué comme ça, mais faire en sorte de lui montrer que d'attaquer des troupeaux, c'est pas quelque chose qui doit être naturel. Ça doit pas être son instinct de prédateur, doit pas se tourner vers les troupeaux. Il doit se tourner vers d'autres cibles. C'est ça aussi l'enjeu de ce plan, de faire en sorte qu'on puisse être plus réactif et quand on a des problèmes, de pouvoir dissuader les loups d'attaquer les troupeaux. Et pas d'attendre qu'on a des attaques pour ensuite et envisager des prélèvements. C'est être le plus rapidement dissuasif.
Ah oui, on pourrait faire ça avec le monde de la finance pour qu'il ne se jette pas comme ça sur les marchés. On pourrait aussi l'éduquer de cette manière-là. Hein, voilà.
Oui, je pense que ça va être encore plus difficile que pour le loup, mais bon, moi je veux bien. Alors ce plan va être soumis à la consultation du public et définitivement adopté le 8 avril, avant la remontée des troupeaux dans les estives.
On ne quitte pas notre bestiaire puisque le 3 mars, la CITES va se pencher, Nathalie, sur le commerce des espèces menacées.
Oui, ce sera à Bangkok. Alors vous savez que la CITES, la Convention internationale sur le commerce des espèces menacées, classe les espèces en danger en deux catégories. Soit le commerce est interdit, soit il est strictement réglementé. Certaines espèces vont perdre leur statut de protection parce qu'elles vont mieux. D'autres vont en acquérir un. Et il sera aussi question du commerce illégal que l'on estime à 20 milliards de dollars par an. Stéphane Ringuet du WWF.
Force est de constater aujourd'hui que beaucoup de pays n'ont pas les moyens ou ne souhaitent pas ou n'ont pas l'intelligence nécessaire pour effectivement appliquer concrètement la Convention ou alors se donner les moyens pour lutter efficacement contre le commerce illégal dans leur propre pays et a fortiori à leurs frontières, puisque les frontières sont poreuses si les contrôles ne sont pas effectifs. Quand on parle de grandes saisies d'ivoire, clairement derrière il y a des réseaux criminels organisés qui permettent effectivement à ces commerces d'exister. Un seul exemple, à travers nos informations, la base de données ETIS, qui est une grande base de données mondiale qui centralise l'ensemble des informations de saisie de produits d'ivoire, rien que pour l'année 2011, c'est quand même 17 grosses saisies supérieures à 800 kilos, représentant l'équivalent de 2500 éléphants qui ont été saisis rien que pour cette année. Ça vous montre l'ampleur de ce commerce-là, et forcément un tel commerce ne peut exister que s'il est organisé de façon mondiale.
Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez un ours blanc, vous le gardez, vous ne le transformez pas en carpette.
J'ai rien, moi. Pour l'instant, on marche au pétrole. Ça fait des années et des années, hein.
Ah, mais écoutez, monsieur, pour l'électricité, c'est différent. Monsieur Caribou, vous posez les compteurs.
Et quel compteur? Pourquoi faire un compteur?
Pour amener le courant, monsieur.
Le débat sur l'énergie se poursuit, Nathalie, on va dire dans un silence un peu assourdissant.
Oui, c'est vrai qu'on en parle peu, alors je vais vous donner des nouvelles. Hein. 20 Français viennent d'être nommés dans le Conseil citoyen, 10 hommes, 10 femmes, représentatifs de la société française. On compte sur eux pour traduire en langage courant le jargon souvent employé par les experts. Leur première demande, d'ailleurs, c'est d'exclure l'expression « mix énergétique ». Ils préfèrent parler de bouquet.
Attendez, quand même, 20 Français sur, on est combien, 65 millions à peu près?
Oui, mais nous pouvons tous participer en donnant notre avis, Denis, sur le site internet, hein, je le rappelle, www.transition-energetique.gouv.fr. Le site a ouvert il y a 15 jours, il a reçu 70 000 visiteurs et 400 personnes ont apporté leur contribution écrite au débat. C'est pas grand-chose. Alors franchement, allez-y, on ne vous demande pas votre avis tous les jours, surtout en matière d'énergie, alors là, profitez-en.
www.transition-energetique.gouv.fr. C'est sur le site de CO2 Mon Amour.
Non mais mon laisse des mosquitos. Non mais mon laisse des mosquitos. Non mais mon laisse des mosquitos. Ne me pique pas.
Toute votre jeunesse, Nathalie Fontrelle, c'est formidable. Ça pique et ça démange, mais la lutte biologique contre les moustiques n'est pas si écolo que ça.
Oui, le BTI, le bacille de Thuringe, est utilisé depuis 2006 dans les zones humides du littoral méditerranéen et atlantique. Vous savez qu'il produit des toxines qui détruisent les larves de moustiques qui les ingèrent.
Alors la lutte biologique a des effets collatéraux.
Oui, sur les espèces non ciblées par le bacille, avec une baisse des effectifs de 37 à 58% sur des espèces d'invertébrés qui sont à la base de l'alimentation des oiseaux.
Oui, mais on va dire que les hommes, eux, sont contents.
90% des personnes sondées sont effectivement favorables au maintien de cette lutte. Les collectivités locales ont donc décidé de renouveler ces opérations de démoustication cette année. Et les conseils scientifiques vont continuer à évaluer leur impact. S'il est moindre que celui des traitements chimiques, c'est vrai, hein, Denis, il n'est pas neutre du tout.
Alors la semaine dernière dans CO2 Mon Amour, là on avait pris un petit temps d'avance, c'était une émission consacrée à la future
PAC.
Et voilà, donc la politique agricole commune, la future donc sur la période 2014-2020. Après le climat, Nicolas Hulot s'attaque donc à cette PAC qui est très inégalitaire.
Oui, il a lancé cette semaine une campagne de sensibilisation auprès des Européens, donc c'est toute l'Europe, intitulée « I feel good ».
Je me chante bien.
Chant, comme un chant bien cultivé. La PAC, je vous le rappelle, hein, c'est 50 milliards d'euros d'aide qui ne vont pas forcément aux pratiques les plus douces pour la Terre. Pour Nicolas Hulot, il faut renverser la vapeur.
Nous, notre conviction, c'est que les citoyens français, les citoyens européens doivent quand même être un peu mieux informés sur ce qu'est la politique agricole commune, ce qu'elle induit. Et c'est quand même leur argent, hein, je le rappelle, 50 milliards d'euros, c'est pas rien. Il y a 500 milliards de consommateurs en Europe. Et donc on souhaite faire à la fois une campagne pédagogique, mais en même temps une campagne de mobilisation autour d'un certain nombre de valeurs, d'orientation et de perspectives, pour que les citoyens prennent un peu aussi en main leur avenir. Je rappelle quand même qu'on est tous concernés. Derrière le mot agriculture, il y a le mot alimentation. Derrière le mot alimentation, il y a le mot bien-être, il y a le mot économique, il y a le mot santé. Et donc on ne peut pas s'en désintéresser. Donc nous, on leur donne simplement, à travers cette campagne « I feel good », on peut retrouver sur le site ifeelgood.org tous les éléments d'appréciation. Et puis en même temps, il y a une pétition, parce que c'est quand même l'instrument, je dirais, civique qui fonctionne le mieux pour essayer d'interpeller nos décideurs. L'idée de cette campagne, ce n'est pas du tout de pointer du doigt les agriculteurs. Au contraire, c'est de valoriser, de montrer qu'il y a d'autres alternatives, qu'il y a d'autres modes agricoles possibles et qu'on peut concilier les impératifs économiques, les impératifs d'emploi, les impératifs sanitaires et les impératifs environnementaux.
Et puis donc cette PAC en France, à peu près 9 milliards et demi quand même d'euros. Merci Nathalie. Bah, écoutez, retournez dans votre champ, retrouvez votre cheval.
Merci Denis, au revoir.
Ah, c'était pas du country du Lot, non, mais franchement, québécois, c'était Lisa Leblanc, cerveau ramolli, choisi par Jean-Baptiste Audibert. Il a très bien fait de nous passer cette chanson. Merci à Sandrine Laurent, à Guillaume Roux à la technique aujourd'hui, à Séverine Bouvard, notre assistante, à Christophe Imbert qui a réalisé cette émission, à Albert Houck du Maine-et-Loire, à Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Alors, la semaine prochaine, ce sera un spécial abeilles. Les abeilles, donc combien de divisions? L'actu du Mont Petit Loup, ce sera demain à 19h54 après les petits bateaux. Et vous savez qu'après, eh ben, il y a le masque et la pluie. Mais Jérôme Garcin, eh bien, vient au micro de Clara Dupont-Monod dans quelques instants. Donc vous écouterez France Inter avec un excellent livre qui s'appelle Le Bleu Horizon. Denis Chessou, je vous souhaite un excellent week-end et une très bonne route. Allons-y.